Oui, donc j'invite Narges, Eric, Michel et Audrey à me rejoindre.
Comme vous voulez.
Voilà, alors on commence donc par cette première table ronde, les quartiers populaires et les industries culturelles et créatives entre reconnaissance et tension. Alors la problématisation de cette table ronde a déjà commencé à être nouée par notamment les interventions de Samy et Ulysse sur ce paradoxe reconnaissance et tension, cette question de l'invisibilité qui moi me touche beaucoup. Donc Emmanuel Parent, je suis maître de conférence ici en musique et musicologie, je travaillais plutôt sur les musiques noires américaines et j'avais fait ma thèse sur un auteur qui s'appelle Ralph Ellison, qui est connu pour avoir écrit un roman sur l'expérience afro-américaine au milieu du XXe siècle, à l'époque de la ségrégation, ce roman s'appelle Invisible Man. Et l'invisibilité, pour lui, est la métaphore du racisme, pour le dire très brièvement. Aujourd'hui, on est là pour parler donc de la culture et des entreprises qui la produisent et la font circuler. Et évidemment, ce sont des leviers essentiels d'émancipation et de démocratie dans les quartiers populaires, ces quartiers où vivent les classes populaires. Donc, il s'agit de penser les quartiers comme des lieux non pas simplement de consommation, mais de production de la culture. Donc, la question, c'est cette production culturelle, est-ce qu'elle est reconnue à sa juste place dans la société et quels sont les intermédiaires qui s'occupent de lui donner un accès à la sphère publique ? Si la question de la reconnaissance se pose, c'est que sans doute cela ne va pas de soi, c'est qu'il y a un fossé, il y a une distance entre les quartiers populaires et les industries culturelles ou certaines industries culturelles, c'est aussi la question qu'on va se poser, alors que dans le même temps, comme l'ont dit Samy et Ulysse, les artistes de ces quartiers sont omniprésents dans les charts ou à l'écran, cinéma, séries, télé-réalité. On pense par exemple au show Nouvelle École sur Netflix qui a eu aussi pas mal de succès il y a ces derniers temps. Donc ce paradoxe du minoritaire et du majoritaire, nous l'avions abordé lors d'une journée d'études organisée à Rennes 2 au mois d'octobre sur la chanteuse Aya Nakamura. Donc en octobre 2024, Aya Nakamura incarne vraiment à sa manière ce paradoxe de la visible invisibilité des cultures populaires ou des cultures issues des quartiers. Un paradoxe en fait qui est récurrent dans les sociétés occidentales depuis le 19e siècle, depuis l'avènement de la culture de masse depuis 1850 à peu près en France, mais aussi aux États-Unis, etc. En fait, une minorité ou une culture minoritaire devient mainstream, est très appréciée par la société dans son ensemble, mais pour autant n'obtient pas la place qu'on pourrait lui imaginer. Et surtout, cette culture minoritaire devient mainstream sans devenir majoritaire, pour ainsi dire. Et ses représentants se perçoivent aussi, c'est ça qui est important, toujours comme des dominés. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en butte à des conflits dans leurs interactions, même s'ils ont obtenu un succès, un très grand succès. Donc ça me fait penser, c'était un documentaire que j'avais vu où Zinedine Zidane allait voir un spectacle de Jamel et puis à la fin ils parlent tous les deux, puis Zidane qui est très discret, très taiseux, dit « Ouais Jamel, toi et moi finalement on est pareil, mais toi t'arrives à le dire ». Voilà, je trouve que c'était assez touchant comme formule. Donc pour résumer cette idée, le majoritaire numérique n'est pas le majoritaire sociologique, voilà. Donc, on fait donc le constat d'une distance entre quartiers populaires et industries culturelles et créatives. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais interroger donc nos intervenants. Distance spatiale entre centre et périphérie, surtout en France, où cette distance centre-ville-banlieue est redoublée par la distance Paris-reste de la France. Il y a un centralisme des industries culturelles en France qui est particulièrement prononcé. Deuxièmement, une distance socio-économique où l'accès à la culture et à l'éducation culturelle est freiné par un certain nombre d'obstacles. Les sociologues parlent en termes de capitaux économiques et de capitaux culturels. Distance institutionnelle, quand les institutions culturelles sont souvent absentes des quartiers populaires. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, notamment peut-être avec toi, Audrey, dans le quartier du Blône, par exemple. Présence-absence. Distance symbolique, enfin, où la culture est l'objet d'une définition identitaire, ça permet de se construire une identité, la culture, et ça permet, enfin, ça contribue à la construction d'une séparation aussi entre un « eux » et un « nous », bien discuté par exemple dans l'ouvrage de Sami Zegnani dans Le Monde des Cités, et que la culture, cette séparation entre le « eux » et le « nous », la culture peut être amenée à la renforcer, parfois délibérément, de renforcer le stigmate de part et d'autre, hein, de cette frontière. Donc il y a un jeu aussi un peu ambigu à ce niveau-là. Donc c'est sur ces distances que j'aimerais que nos intervenants puissent témoigner, s'exprimer, aussi réagir à ce que j'ai dit, peut-être contredire certains éléments d'analyse que j'ai présentés. Et je voudrais juste ajouter en préambule qu'on va employer le terme d'industrie créative et culturelle ici au sens plutôt anglophone, c'est-à-dire que pour les Anglais, ICC, c'est tout. C'est-à-dire c'est les assos avec quelques personnes et les majors. Alors que parfois en France, industrie culturelle, avec l'héritage de l'école de Francfort, c'est la culture industrie, c'est le truc flippant, c'est uniquement voilà, les majors qui, dans une logique un peu complotiste, préparent des objets mainstream qui vont être diffusés de haut en bas. Industrie créative, voilà, ça concerne tout type d'entreprise, y compris artisanale, y compris underground, y compris do-it-yourself. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Alors, justement, nous avons autour de cette table une grande diversité de profils, à la fois locaux et nationaux, rennais, bassin parisien, des artistes, des diffuseurs, des intermédiaires, des organisateurs. Alors, ça fait plus que quatre, tout ce que je viens de dire, mais c'est parce qu'ils ont tous plusieurs casquettes, et des spécialistes de l'éducation artistique et culturelle. Alors, je vais d'abord demander aux intervenants de se présenter, puis peut-être de réagir s'il y a une des choses que j'ai dit qui les interpelle. Ensuite, je les relancerai avec différentes questions. Donc, on a d'abord Audrey Andriana Solomanana, qui est présidente de l'association Biopic Records, qui est aussi étudiante en Master 2 Approche créative de l'espace public à Rennes 2. Donc, évidemment, ces quelques mots justifient ta présence ici. Je vais te laisser développer ça tout à l'heure. Nous avons Narges Bahar, qui est senior editor chez Deezer, qui est journaliste, qui a un parcours voilà, chez Trace TV, chez Radio France, qui est aussi coach et media trainer pour des artistes, mais qui cultive aussi son indépendance avec sa chaîne YouTube DA et puis sa page Instagram prolifique que je vous invite à consulter. Michel Djiwonu, multicasquette aussi, on en parlait tout à l'heure avant de cette journée, directeur d'école en quartier populaire, metteur en scène, acteur de théâtre et auteur d'une pièce autobiographique, Le voyage de mon père en 2019, je pense que tu vas en reparler. Et puis Eric Gouzanet, qui est directeur du cinéma Arvor, et qui donc cinéma rennais, et qui est aussi ancien étudiant Rennes 2, si je peux me permettre de le mentionner, lié à Rennes 2 avec la fondation de l'association Clair Obscur, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a longtemps, mais ça fait partie aussi de la tradition Rennes 2, aussi, où pas mal d'industries créatives et culturelles sont parties hein, des interactions étudiantes. On pense au transmusical, on pense à Travelling, on pense à Mythos. Voilà, il y a eu pas mal d'exemples comme ça. Voilà, donc j'ai présenté rapidement les intervenants. Est-ce qu'on peut peut-être le faire dans l'ordre, Audrey ? Est-ce que tu veux bien commencer à te présenter et puis à réagir un petit peu à cette thématique ?
Oui, je veux bien. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Audrey. Je suis étudiante en Master 2 Approche créative de l'espace public, comme tu l'as dit. Je suis aussi présidente de l'association Biopic Record, qui est insérée sur le Blon. On fait de l'accompagnement d'artistes, que ce soit des créateurs de vêtements, des chanteuses, des rappeurs, des rappeuses, de tout en fait. On est vraiment dans la diffusion de la culture au sens large. Et on fait de l'animation de territoire, donc sur le quartier du Blon et aussi un peu à Villejean. Dans notre asso, on est quatre. Et voilà, on est tous partis du quartier du Blon parce qu'on est tous habitants du quartier dans l'asso. On est tous partis, mais on est toujours très attachés au quartier. Et voilà.
Merci. Bah, écoute, j'ai plein de questions à te poser, mais on va commencer par des présentations comme ça succinctes et puis on reprendra la discussion. Donc, Narges, si tu veux bien redire quelques mots.
Oui, bah, tu m'as déjà très bien présenté. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Narges, journaliste de formation. Je viens d'un quartier populaire. J'ai grandi dans le 78 à Poissy, donc une banlieue plutôt éloignée dans les Yvelines. Et en fait, c'est là où je découvre le rap et aussi que je commence à conscientiser le fait qu'il va falloir militer, parce que pour moi, la musique, ça a été très tôt un instrument politique et une façon de rendre visible ce qu'on voulait invisibiliser. Donc, tout mon travail autour de la musique, notamment du rap, mais pas que, puisque je travaille beaucoup autour des musiques d'afro-descendants et du Maghreb, ça a été, par ailleurs, on pourrait faire afro-descendants, Maghreb, on pourrait reparler de ça, mais en tout cas, on va dire du continent africain et aussi des départements et des régions d'outre-mer. Voilà, j'ai travaillé autour de ça, c'est pour ça que je suis passée par Trace, où j'ai pu aussi découvrir le monde et me rendre compte qu'on était très parisien centré et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en dehors de Paris, et surtout il y avait cette vraie question de du nombre, la puissance numérique versus la puissance visible, et voilà, c'est vraiment ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Je travaille la musique comme une matière qui me permet justement de militer, parce que je pense que je suis avant tout quelqu'un de très militant dans tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà.
Bonjour à tous et à toutes, Michel Givonou, donc je suis originaire du 91. Je suis directeur d'une école élémentaire depuis 5 ans maintenant, mais j'y ai enseigné pendant 15 ans, donc ça fait 20 ans que je suis dans la maison éducation nationale. Et à côté de ça, effectivement, depuis 2012-2011, je me suis lancé dans, si on peut dire ça comme ça, avec une équipe dans les actions sociales, avec une petite asso qui s'appelle Philocité, qui a pour but de se dire ce qui se passe derrière les écrans avec les débats que l'on peut faire à la télévision, ça peut se passer aussi en bas de chez nous, et que dans la société civile, il y a des forces en présence, comme vous, comme moi, qui ont leur mot à dire et qui peuvent agir aussi. Et il y a une deuxième asso qu'on a créée à ce moment-là, c'est l'Entaille, c'est une asso qui fait de l'action culturelle, et c'est comment est-ce que la matière que vous avez à l'intérieur de vous, habitant de la société civile, elle peut être, et elle peut servir soit d'objet, ou encore être donnée à voir. À titre très personnel, moi, j'ai écrit effectivement un seul en scène, Le voyage de mon père, mon départ, qui est disponible sur... Enfin, la pièce n'est pas disponible, mais il y a de la matière sur les réseaux, où je me suis dit, et on parle beaucoup d'invisibilisation depuis tout à l'heure, que la parole de certains afrodescendants, ou même d'autres personnes ayant migré, prendre ses valises, aller s'établir ailleurs et s'enraciner, c'est pas rien. Ça demande pas uniquement de la force, mais ça pose des questions sur la transmission, sur les obstacles que l'on a quand on veut appartenir à un grand tout, mais qu'on a un héritage qui vient d'ailleurs. Et donc je fais discuter mon père et moi, c'est un seul en scène, mais j'interprète donc plusieurs personnages, je fais discuter mon père et moi sur ces questions-là. Voilà. Donc voilà, je suis un peu multiple, et je pense que c'est super important de le dire, qu'on est multiple, parce que si on écoute sa petite voix intérieure, on laisse libre cours à, même si c'est pas professionnel ou même si c'est peut-être amateur comme pratique, on laisse libre cours à cette petite voix qu'on a à l'intérieur pour pouvoir se raconter. Et je crois que ça résonne dans beaucoup plus de gens qu'on ne le pense autour de nous. Voilà.
Bonjour à tous et à toutes, Eric Gouzanet. Donc, moi, il me plaît de dire que j'ai grandi dans une MJC, donc à 1h30 de Rennes, et c'est donc ma formation, une éducation populaire. Rennes et Rennes 2, oui, c'est important aussi pour moi, pour mon parcours. J'ai d'abord été étudiant ici même en sociologie, puis ensuite je reviens pour y faire mon service civique. À l'époque, j'avais refusé le service militaire, il y avait la possibilité d'être objecteur de conscience. Et j'ai connu le service culturel naissant, puisqu'il y avait une personne, on est dans les fins des années 80, il y avait donc une personne à mi-temps et trois objecteurs, dont l'un aujourd'hui est élu à la culture à la ville de Rennes, Benoît Careil. Donc ça a été aussi pour moi un lieu de rencontre, un lieu qui a favorisé aussi mon parcours professionnel, puisque là je rencontre donc des collègues, des amis qui viennent de partout, d'Allemagne, de Jordanie, Palestine, de Rennes. Et donc on crée l'association Clair Obscur. Clair Obscur, c'est le festival traveling entre autres, et puis aussi participe à des dispositifs d'éducation à l'image qui sont importants aussi. Donc je connais bien le quartier Rennes 2, avec ça, j'ai toujours considéré un peu que la barrière de l'avenue Gaston-Berger et l'université et le quartier était aussi quelque chose d'assez séparé. Mais il n'empêche, comme l'a rappelé Baptiste aussi, il se fait des choses, voilà, avec la maison de quartier, avec d'autres associations. Et c'est vrai que j'ai entendu aussi un combat. C'est un combat aussi d'aller capter les publics des quartiers ici à Rennes. Un combat permanent. Aujourd'hui, donc, je dirige le cinéma Arvor, qui est situé donc entre le plus grand centre pénitentiaire de France et les rails, mais il n'empêche que donc c'est un cinéma aussi ouvert sur le monde, sans frontières, et la frontière commence, enfin là, le monde commence au bout de la rue, donc on va aussi par nos relations, par nos demandes aussi, on est souvent sollicité par les structures des quartiers pour les accueillir, pour faire aussi bien un ciné-débat, mais aussi un clip, un shooting photo, enfin voilà, c'est vrai qu'il faut s'ouvrir, il faut combattre. Voilà un peu, et puis dans 2 mois je termine mon parcours professionnel. L'industrie pour moi, c'est, on est une association aussi constituée de 10 salariés, 80 bénévoles, mais nous sommes aussi dans le business, l'industrie culturelle, ça me parle, même si on défend aussi des valeurs associatives de partage, de solidarité. Voilà, merci.
Ok, super. Merci beaucoup. Ben oui, puis je te remercie d'avoir reparlé aussi de Villejean. Je parle de fossé. Vous savez, voilà, qu'il y a une actualité dramatique en ce moment aussi dans le quartier Villejean. Et Rennes 2, c'est le campus de Villejean. Et en même temps, voilà, il y a une distance en fait entre notre activité ici d'enseignement avec les étudiants de recherche et le quartier. Même si voilà, on y va, on mange, on va à la bibliothèque, on travaille sur place. Et en même temps, voilà, on sent bien aussi que il y a des flux de population qui s'ignorent et des absences qui ne se voient pas d'une certaine manière. Donc ça, c'est super important de le rappeler. Alors, je ne sais pas comment on procède, mais est-ce que Audrey, tu peux nous dire comment ça marche, tout ça, très concrètement, de monter des projets? Je parlais de reconnaissance et tension, je parlais de la distance. On sait qu'au Blône, par exemple, il y a un bâtiment qui est posé, qui est le conservatoire, qui est magnifique. Et en même temps, comment ça se passe, les relations? Est-ce que vous, je crois que vous avez travaillé avec eux, vous avez produit des choses là-bas. Voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton activité, comment on monte et quels sont les interlocuteurs et est-ce que ça marche?
Alors, comment on monte un projet au Blône quand on est une jeune association et qu'on accompagne des jeunes aussi et qu'on est jeunes nous-mêmes? Donc, en fait, tout part d'un projet. C'est soit les jeunes, soit l'asso qui propose un projet. Et on va vers les interlocuteurs. Donc là, au conservatoire, c'est plutôt Élise Tuel qui est chargée d'action culturelle. Et c'est vrai qu'au début, on a eu du mal à contacter le conservatoire parce que pas tout le monde à l'association se sentait légitime de rentrer dans le conservatoire, qui est un lieu très élitiste, très... Enfin, selon nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est les jeunes du quartier. Et en fait, on n'est pas vraiment à l'aise dans ce lieu-là, mais c'est vrai qu'il y a des volontés d'ouvrir les portes et d'aller vers, comme on dit. Et du coup, on va quand c'est ouvert, et puis on rencontre les personnes, et puis on met en place des projets qui prennent plus ou moins de temps. On a fait une comédie musicale, donc un de nos artistes qui s'appelle Simon, YRT de son nom de rappeur, et a participé à cette comédie musicale avec Abdé, qui est un grand nom de la scène rennaise. Et avec les élèves du conservatoire, ils se sont mélangés, ils ont créé une comédie musicale sur le thème de la place. Donc la place dans la société, la place dans l'espace public. Et ça s'appelle Rhapsode, et il y a eu 2 représentations au sein du conservatoire.
Ok, donc c'est plutôt quand même, il y a eu des choses et c'est plutôt positif alors cette installation, où tu as l'impression qu'il y a quand même moyen de faire des choses, quoi.
Il y a moyen de faire mieux, ça c'est sûr. Et ça prend du temps et ça prend de l'énergie aussi parce que nous on est bénévoles, on a tous un travail ou des études à côté et on n'est pas forcément calé sur les heures des institutions en fait, et c'est pas forcément tout le temps pris en compte parce que nous on peut forcément sur des créneaux qui sont en dehors de leurs horaires d'ouverture, donc ça demande beaucoup d'adaptabilité et c'est pas facile. Donc nous on prend beaucoup sur notre temps personnel en tant qu'association bénévole, Mais ça demande aussi des compromis de leur côté à eux, donc du côté des institutions, pour qu'on puisse travailler ensemble. Mmh.
Et est-ce que tu peux nous dire rapidement, c'est quoi les infrastructures pour, si on réduit au domaine du rap, qui sont au Blown, pour que les gens voilà, qui, découvrent un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses ou il n'y a rien ou c'est que, si on veut faire du rap, il faut aller au conservatoire ou il y a d'autres choses?
Non, si on veut faire du rap, il ne faut pas aller au conservatoire. Enfin, on peut.
Pas encore.
Mais... c'est pas obligé. Hein. On a beaucoup d'associations. Nous, on travaille avec Quartier Libre, qui est une association de quartier du Blône, qui avec Abdé, que j'ai cité tout à l'heure, qui est dans le bureau de Quartier Libre. On travaille aussi avec Doing It, donc avec Charles, qui a un studio qui s'appelle Le Bloc, qui est très connu dans le quartier, même sur Rennes. On est beaucoup accompagné par la structure Le Carrez, qui est portée par le 4bis, qui accueille les 16-25 ans dans leurs démarches administratives, projets. Donc on est suivi par le Carrez qui sort du 4bis, et ça nous aide beaucoup pour tout ce qui est administratif aussi. Donc voilà.
Je ne sais pas, est-ce que vous voulez réagir, Michel, toi, en tant que porteur de projet, est-ce que ça te rappelle aussi, quand tu as commencé à monter des choses, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, c'était quoi les difficultés, ou qu'est-ce, ouais. Qu'est-ce qu'on projette quand on est un artiste des quartiers populaires sur, justement, les industries culturelles? C'est quelque chose de lointain, quelque chose de...
Bah, à titre très personnel, moi, je projetais rien du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant une feuille et un stylo un jour, et je me suis dit, tiens, tout ce que mon père me raconte de son parcours de migration... Ce serait dommage quand même que ça ne résonne chez personne et que ce soit un jour effacé. Donc, j'ai d'abord répondu à une envie, à un besoin très personnel, celui d'abord d'inscrire quelque part dans le papier et de manière pérenne ces chemins de migration qui sont en fait multiples et variés en France et qui appartiennent à l'histoire française avec un grand H. Donc, ça a d'abord répondu à ça, moi. Et effectivement, je ne projetais rien. Et chemin faisant, je vous le dis, hein, j'ai commencé à répéter, j'étais... dans une de mes salles de classe. Je poussais les tables et après avoir écrit pendant un an et demi, je me suis mis à répéter dans une salle polyvalente de ma classe. Il ne faut pas le dire, d'ailleurs, parce que je n'avais pas le droit d'utiliser les locaux, entre 20h30 et 22h. Et un cercle vertueux se fait. On parle de son travail, dédicace à Ulysse. Un cercle vertueux se crée, des gens approchent ce projet pour aider à la mise en scène, pour la diffusion, et puis on se rend compte que ce projet qui est artistique sur le plateau, empreinte population appartenant à un quartier populaire, on se rend compte que ce travail-là, ben, il n'est pas que artistique, il est aussi économique, il est social, il peut même devenir pédagogique. Et voilà. Et donc moi, je me suis pas projeté, je me suis plutôt dit « fais », et surtout je me suis dit « pourquoi tu le fais ?» La question de comment on va faire pour diffuser, pour avoir un site, pour proposer notre travail à des structures, à des institutions, pour co-construire, pour collaborer, c'est vraiment pas une question que je me suis posée au début. Je me suis dit, d'abord, il faut que tu sois en chemin, et ensuite, chemin faisant, on verra. Et j'ai eu de la chance, parce que j'ai été assez bien accompagné, et surtout parce que le propos, beaucoup se disaient, mais on a besoin d'entendre ça. Donc, si je continue un peu plus, si je peux me permettre, c'est que... ce travail-là, quand il a commencé à prendre de l'épaisseur, moi, j'ai proposé une esquisse à une MJC du côté de Ris-Orangis, qui a d'ailleurs fermé, malheureusement, elle s'est transformée, cette MJC, alors qu'elle avait un rayonnement très emblématique dans le 91 dans l'Essonne. Et suite à ça, on joue devant une salle pleine parce qu'on a des amis et un petit réseau, une fois, deux fois, et puis la troisième et la quatrième fois, c'est plus des amis, c'est plus le réseau, c'est des gens qui ont entendu parler. C'est des institutions qui ont entendu parler et auprès de qui on a insisté, qui viennent voir le travail. Et voilà. Et petit à petit, on développe ça et puis on a la possibilité de déployer son travail et de le donner à voir. Deux dernières choses sur la reconnaissance. Je me suis retrouvé face à des programmateurs de théâtre et ils me disaient, mais là, c'est cliché, là, un peu, là, c'est cliché aussi quand même votre truc. Et je leur répondais, mais c'est mon réel en fait. Donc c'est pas un cliché, c'est mon réel. Alors vous, peut-être que vous êtes un enfant de la balle, que vous n'avez jamais connu ça, mais sachez que venant d'un quartier populaire, d'une REP, d'une ZEP, avec tout ce que ça implique, de frottement parfois avec des institutions, bah c'est mon réel.
Qu'est-ce qui les gênait? C'était quoi les clichés?
Alors en fait, c'est dans mon spectacle, à un moment donné, j'ai une prof qui me rend une copie, et qui me dit, mais vous faites trois fautes par ligne, monsieur Givonou, vous n'arrivez à rien. on a tous vécu à un moment donné, et je bosse dans la maison éducation nationale, hein. Donc j'ai rejoint l'ennemi en fait. Et donc elle me rend cette copie, elle me dit, oh, c'est cliché ça quand même comme truc. Mais c'est mon réel. Alors il y a d'autres passages du spectacle que je ne vais pas vous spoiler là, parce qu'il faudra venir, hein, où effectivement on est dans le cliché. Mais je peux pas faire autrement. Et quand vous travaillez avec des populations de quartiers populaires, et que vous leur proposez de donner à voir quelque chose, ils se racontent d'abord. Ils vont pas être dans la fiction. Ils vont d'abord se raconter eux-mêmes. Je finis sur mes après quatre présentations, où là, le spectacle prend un peu d'épaisseur et les gens sont intéressés. Moi, la vraie validation, je pense que je l'ai eue à La Motte-Landron. Je sais pas si vous connaissez cette ville. C'est à une heure et demie de Bordeaux. C'est un petit village, redédicace à Ulysse. Et donc, moi, je joue mes quatre présentations et je me dis, ah, c'est facile, c'est des copains de copains qui sont venus me voir. Donc, en termes de légitimité, je me dis, bon, j'y suis pas vraiment. Et puis, donc, La Motte-Landron, ils ont un assaut, la gare, sans crier gare. C'est un petit village de, je sais pas, 200 âmes. Et on a ce couple-là, Philippe et je sais plus qui elle m'envoyait pas, qui ont, et Anne, qui tiennent une gare désaffectée. Eux, ils se disent, voilà, nous, on ramène la culture dans notre village. On est vraiment dans la ruralité pure et dure. Et une fois par mois, ils ont un spectacle, ils ont un concert dans cette gare-là. Ils m'invitent, je joue, et il y a un bord plateau. Parce que moi, quand je joue, j'aime qu'il y ait un bord plateau après. J'estime qu'on a un devoir de transmission, de je sais pas comment dire, après le spectacle, repartir, moi, ça m'intéresse pas.
T'as pas envie que ça s'arrête.
Ouais. On a pas envie que ça s'arrête. Et donc, je me retrouve dans la France profonde, passez-moi l'expression, avec des gens qui ne sont pas du tout de ma condition. Et qui m'interrogent sur ce qu'ils viennent de voir. Ah, c'est ça l'immigration française ? Ah, d'accord. La vie dans les quartiers ? D'accord. La transmission ? D'accord. La difficulté d'exister ici, quand on a des codes qui ne sont pas ceux de la société française ? D'accord. Donc on a un bord plateau qui est aussi puissant que ce qui se passe sur scène, et là on se rend compte qu'on a servi à quelque chose. Donc la validation pour moi, et la reconnaissance, c'est eux qui m'ont mis le coup de tampon. Je me suis dit, ok, ce spectacle-là, en fait, il peut aller vivre ailleurs. Voilà.
Merci. Je sais pas, Narges, je crois que quand tu travaillais pour Move, tu as fait une sorte de tour de France aussi pour rencontrer plein de rappeurs, et des artistes connus, mais aussi plein d'inconnus. Comment ça a changé ? Enfin, toi, tu as dit que tu viens d'un quartier populaire, oui. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision, ou tu as retrouvé des choses que tu connaissais ?
Moi, je pense qu'il y a ce truc où le quartier, tu le quittes jamais vraiment. Enfin, moi, je suis née. Dans le 7-8, j'ai passé beaucoup de temps en bas du bloc, comme on dit. Et en fait, le Banks, j'ai beaucoup de mots de rappeur. Désolée, c'est mon travail. Ça fait partie de moi. Moi, je suis vraiment une enfant des quartiers, même si aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe, parce que j'ai beaucoup évolué. Et ça a demandé, par ailleurs, beaucoup de résilience pour pouvoir accepter cette condition-là aussi. Parce que partir de là où on vient et se retrouver face à cet inconnu et aussi l'agressivité et le racisme, c'est vraiment une épreuve de fond. En fait, il n'y a pas un jour où c'est pas des sujets auxquels je réfléchis. Mais en tout cas, ce quartier, je l'ai toujours aimé, et j'ai toujours été en colère contre la société qui ne regarde pas les quartiers à la hauteur des talents et de la richesse qu'ils proposent. Donc j'ai toujours travaillé autour de cette dynamique-là, en me disant qu'il fallait aussi regarder toute l'histoire de la France avec la question postcoloniale, toute la réflexion autour des diasporas, et c'est ce qui m'a beaucoup conduit à travailler aussi sur l'Afrique et les Antilles-Guyane, parce que c'était aussi des endroits où j'avais eu la possibilité de partir dans l'enquête de reportage, et aussi de voir qu'il se passait énormément de choses, qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de la condition. Moi, j'ai toujours dit, le rap m'a appris beaucoup sur l'histoire de France, mais pas que, par ailleurs. Et donc, quand je pars sur ce tour des cités, c'est vraiment avec cette ambition de montrer la nouvelle génération rap français, et aussi dans cette idée d'aller vraiment là où les choses se font, dans le sens où on est très, par rapport aux médias, vous le disiez, parisien centré, tout se passe à Paris, il y a une centralisation des industries, et on a tendance à ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Et moi, c'est important, dans le cadre de mon travail, d'aller sur le terrain, de parler avec les gens, parce qu'en fait, quand vous partez sur du reportage, vous n'allez pas nécessairement qu'interviewer un artiste, vous allez passer un moment de vie avec lui, vous allez parler avec ses équipes, vous allez parler avec les gens du quartier. J'ai tellement d'exemples qui me viennent à l'esprit où tu te retrouves à faire un barbecue avec les mecs, il y a un coffre qui s'ouvre, ça sort des bouteilles de jus, tu te poses avec eux, ils te raccompagnent. À Roubaix, tu vas manger un kebab. Enfin, en fait, tu partages la vie des gens. Et moi, je fais ce travail-là avant tout pour tendre mon micro aux autres. C'est pas un truc de... Alors, j'adore la musique, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un instrument militant. Donc, du coup, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, ça a été dans cette idée de toujours montrer cette richesse des quartiers dans lesquels j'ai grandi, où on avait aussi cette mixité culturelle. Et tu pouvais, sans forcément vouloir rentrer dans les clichés, mais t'allais chez ta copine sénégalaise un midi, puis le lendemain, en fait, t'étais chez ta copine Gaëlle et t'allais promener le chien d'André et il te filait un malabar, tu vois. Et donc moi, comme j'ai grandi un peu avec ce truc-là, ça peut paraître encore une fois un peu cliché, mais en vrai, c'est vraiment la notion du quartier que j'ai. Bah, je me suis dit, en grandissant, ok, je suis allée en après-midi, j'écoutais du zouk, après-midi quand même, faut le dire, et j'ai fait toute ma construction après, je dirais professionnelle, c'est comme en fait des réminiscences de l'enfance que j'ai eue et de la nostalgie de ce truc trop cool où on vivait tous et tout ensemble, et même s'il y avait une précarité et une invisibilisation, on était quand même dans une diversité, encore une fois, assez... Enfin, pour moi, c'est magnifique, quoi.
Et ça, il me semble que ça fait partie des choses qui filtrent très peu pour l'extérieur, le vivre ensemble, la qualité des relations au-delà des histoires personnelles, des passés, des différences ethniques, tel pays d'Afrique, etc., de cette possibilité de vivre ensemble, effectivement, ça semble passer très peu. Et sur, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on projette, donc Michel Zay, je projetais rien, qu'est-ce que ces rappeurs que tu rencontres, parce que j'imagine qu'ils ont tous envie de percer,
et ouais,
comment ils voient leur avenir avec lucidité sur le fait qu'il y a beaucoup d'appelés peu d'élus ou ils sont dans l'illusion. Comment t'as perçu ça?
Y a plein de choses qui se jouent. Je dirais que le premier niveau, c'est surtout qu'ils sont là pour faire un coup. Ça ne réfléchit pas à long terme, en fait. La vision, elle a du mal à se construire dans le sens où il y a cette urgence de sortir de sa condition sociale qui fait que finalement, c'est un milieu très capitaliste avec des profils très individualistes qui sont vraiment là pour, comment dirais-je, prendre de l'argent, faire un braco, comme on dit, quoi. Sauf qu'en fait, les trois quarts, quand ça a commencé un peu à marcher, ils commencent à réfléchir et se dire... finalement, ça peut être autre chose que ça. Alors, ça a un petit peu changé aujourd'hui parce que on n'a pas des rap, enfin, on n'a pas un rap, pardon, mais on a des rap avec des typologies de rappeurs et de rappeuses qui viennent de milieux socio-économiques hyper différents. Mais je dirais que pour les artistes qui viennent des quartiers populaires, il y a encore cette notion d'urgence accrochée au fait de faire de la musique où c'est beaucoup en do it yourself. Une défiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions, une méconnaissance du circuit d'aide à l'accompagnement de projets. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive hyper souvent de voir des gens, toutes les grandes institutions qui te disent « Alors, nous, on adorerait avoir des projets rap. » Ouais, mais en fait, les rappeurs, les rappeuses, genre juste, ils vous calculent pas, quoi. Et puis vous avez tellement un système qui paraît complexe et flou pour eux, que s'il y a une barrière à l'entrée qui fait que, quoi. Donc, il y a des, aujourd'hui des associations, notamment le milieu associatif, qui travaille beaucoup à faire en sorte d'aider sur ces sujets, mais ça reste assez, je dirais, délicat, parce que, pour reprendre l'expression pardon, que m'a donné un rappeur du 78 récemment, il m'a dit « je suis dans mon couloir ». Donc moi, je fais du rap de quartier avec une morale, je suis dans mon couloir. Et en vrai, lui est dans son couloir. Il y a des rappeurs qui sont dans d'autres couloirs, qui sont plutôt proches des institutions. Et ces gens-là ne se rencontrent pas nécessairement. Et donc du coup, là où ça devient aussi intéressant aujourd'hui en termes de discussion, c'est de regarder comment on a ghettoisé certaines formes de rap. C'est-à-dire qu'il y a le rap qui est devenu socialement acceptable et branché, avec des artistes qu'on voit intronisés, qui vont dans tous les médias généralistes et pas que par ailleurs, parce qu'ils font les Fashion Week. Mais on a aussi tous les rappeurs vraiment plus et les rappeuses qui ont un rap de quartier avec une morale, qui sont toujours aussi impliqués et engagés pour raconter à quel point ça reste difficile et précaire. Et ces gens-là, on les voit pas et ils sont absents du débat. Donc c'est là aussi où moi je dirais qu'aujourd'hui le combat se fait pour ce qui est de l'esthétique sur laquelle je travaille, et j'arrêterai ici. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la question de le rap est devenu très mainstream, on donne des chiffres, ce qui sont vrais par ailleurs, mais dans ces chiffres-là, en vrai, il faudrait regarder à quel point finalement il y a encore ce rapport de force qui s'écrit et comment on continue de malmener les quartiers populaires et les, je dirais aussi d'une certaine façon, des acteurs hyper importants à la dynamique et à la diversité de cette industrie, quoi.
J'avais une question pour Audrey et Nargès. Si je me trompe pas, est-ce que le numérique a changé la donne aussi? Parce que si je me trompe pas, n'importe qui peut être dans sa chambre, faire un son, avoir une petite cabine, et puis ensuite le dropper sur les plateformes. Et donc les maisons disent quelque part, je sais pas si on a plus besoin d'elles, mais est-ce qu'il y a pas là un vrai décalage et qui permet aux personnes de s'individualiser et de faire leur truc?
Moi, je dirais oui et non, dans le sens où aujourd'hui, les acteurs ils ont encore et actrices ont encore énormément besoin du circuit de distribution et des majors, parce qu'ils vont mettre à disposition des outils et autres qui vont faire que pour ce qui est des rappeurs et des rappeuses des quartiers plus populaires, la question de savoir se structurer d'un point de vue société, tout le travail autour du business de l'industrie, il est quand même pas accessible à tous et à toutes. Donc déjà ça, tu vois, ça fait des barrières à l'entrée. Et l'autre chose aussi, c'est que en fait, c'est là où l'écart se creuse pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des artistes qui performent extrêmement bien sur les réseaux sociaux, mais que tu vas avoir nulle part. Donc en fait, c'est des profils qui n'ont pas d'image et qui sont inexistants dans la sphère publique.
Audrey ?
Moi, à l'échelle locale, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a deux profils. C'est les jeunes qui veulent percer et faire un son et faire du buzz et avoir l'argent. Et ceux qui sont plutôt dans leur coin, dans leur chambre, qui font tout seuls. Et au bout d'un moment, ils ont besoin d'être accompagnés parce que ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire et ils peuvent pas le faire tout seuls. C'est ils partent de leur chambre mais ou d'un local ailleurs et ils ont besoin d'aller vers les autres et ils ont besoin de quelqu'un pour faire le médiateur ou la transmission.
Ouais, effectivement ce que vous avez dit là est super intéressant, c'est-à-dire les jeunes ne calculent pas les dispositifs d'accompagnement. Alors c'est vrai qu'on a 30 ans d'histoire des politiques culturelles en direction des cultures populaires, avec notamment les SMAC. Mais les SMAC, elles sont dans une problématique depuis 10-15 ans d'avoir vu leur public vieillir. Alors que quand ils font un concert de rap, hop, ils remplissent de jeunes, mais les jeunes repartent, ils ont du mal à les connecter, etc. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle d'ailleurs la fédération des SMAC, la Fédélima, travaille beaucoup. On a fait plein de tables rondes, diversité, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu perdus. Donc il y a sûrement des choses à réinventer sur la connexion avec les dispositifs d'accompagnement. Eric, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, puisque toi, ton expérience aussi, c'est de l'éducation à l'image avec l'Arvor. Vous travaillez, vous êtes dans des dispositifs, et est-ce que vous avez... qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? L'éducation à l'image, oui, contribue aussi à l'éveil, souhaite toujours contribuer à l'éveil artistique, hein, que ce soit dans la musique ou aussi au cinéma, mais ça, c'est aussi un discours qu'on entend depuis très longtemps. Les moyens n'évoluent pas. Donc, Clair-Obscur, dans lequel j'étais directeur, co-fondateur et directeur, on a donc, dès le départ de l'association qui a été créée pour organiser un festival, dès le départ, on a donc bien compris les enjeux de ce domaine, dans ce domaine qui était assez naissant, on est fin 80, début 90, donc l'éducation à l'image qui draine tous les quartiers de la ville, que ce soit le centre ou la périphérie. Donc on s'y inscrit parce que c'était important et c'était aussi l'occasion pour ces élèves et leurs enseignants de venir dans les cinémas comme l'Arvor, dans les cinémas centrales, de découvrir le cinéma. Mais ce n'est que qu'un shot, hein. On est vraiment dans l'accompagnement. Est-ce que les gamins sont venus après? Je pense pas, non. C'est une réalité, on fait avec, mais on est là pour leur faire découvrir un cinéma dans lequel ils n'iraient pas spontanément. hein, puisqu'on n'offre pas la même chose qu'un multiplex. Hein, on a pas de, déjà la programmation. On a un choix de programmation aussi qui, bah, qui est une ligne éditoriale qui est toujours en VO aussi, pour les films étrangers. Donc il faut lire. Donc déjà c'est aussi cette barrière, cette sans compter aussi que c'est peut-être un cinéma vieillissant. Voilà, c'est pas pour nous, c'est pas pour les jeunes. Alors maintenant, avec ce nouvel établissement en centre-ville, c'est vrai qu'on est plus visible déjà, accessible.
Vous avez déménagé il y a quelques années, ouais.
Comment ?
Vous avez déménagé de,
voilà,
de la rue d'Entrain.
Voilà, on était donc rue d'Entrain. Et, ben, là aussi,
là, vous êtes à côté de la gare, quoi.
Ce serait un autre, dans le sens inverse. Quand on a quitté le centre historique, on est parti à la gare. On s'est quelque peu excentré, mais pour certains habitants du quartier, on partait en Pologne. Hein. Donc pour eux, alors le projet, il avait été question aussi que le nouvel Arbor s'installe derrière le Triangle à un moment donné. Donc je me dis, waouh, c'est pas gagné. Hein. Peut-être, bien sûr, on se serait rapproché de ces quartiers, hein, mais est-ce que pour autant il serait venu ? J'en sais rien. Il y a la question, on parlait tout à l'heure du conservatoire, mais il y a le Triangle aussi, qui est quand même un lieu dans deux quartiers, un établissement historique. Je ne connais pas vraiment les rapports entre donc, la population et cet établissement qui œuvre quand même depuis très très longtemps en direction de ces publics. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire l'éducation à l'image. Il faut la manière, mais bon, on a bien vu aussi récemment le pass culture qui a été aussi supprimé aussi pour les établissements scolaires, qui était aussi facilitateur. Aussi. On a aussi ici à Rennes la carte sortir, qui permet quand même à des publics précarisés d'accéder à notre cinéma, comme celui de la Maison de la Culture, enfin le CNB.
Ok. Ouais, bah, merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'ai l'impression quand même depuis 25-30 ans et bon, je prêchais pour ma paroisse, mais je pense que les sciences humaines et sociales ont contribué aussi à faire avancer la réflexion sur ces tensions, ce fossé, la nécessaire reconnaissance des cultures populaires. Voilà, la notion de... Enfin, on peut entendre des acteurs culturels, d'institutions parler d'approche postcoloniale, etc. Sans pour autant... Donc, le constat est fait, mais sans pour autant... avoir vraiment les leviers pour que ça circule autant qu'on aimerait que ça circule. Alors, on va peut-être passer la parole à la salle. Peut-être j'aurai une dernière question. Enfin, là, j'en avais plusieurs, mais je sais. Enfin, vous avez des choses à dire, ouais, peut-être,
moi,
juste pour rebondir.
J'ai une question, parce que moi, je suis un enfant des MJC, en fait, et des centres sociaux. C'est vraiment eux, en termes de culture, voire même de politique, qui ont fait mon éducation. Donc, je me rappelle des premières sorties, des premiers films que j'ai pu voir. Je me rappelle des premières expositions que j'ai pu aller voir. Est-ce que tu dirais que, avec désormais, bah, malheureusement, de plus en plus de centres qui ferment faute de budget ou de politique, hein, avec des choix très précis, c'est quoi l'étape qui manquerait pour faire le trait d'union, en fait, entre l'accès à la culture pour les populations qui avaient à l'époque libre accès à ça, avec les centres sociaux, les MJC, c'est quoi l'étape manquante ?
Peut-être de faire tomber les codes d'accès, les caméras ou la sécurité. Je m'explique. Hein. C'est-à-dire
qu'il
y a 30 ans, ben, moi, la MJ, si on voulait aller en dehors des heures d'ouverture, on pouvait y aller. Hein, on avait accès aussi le camion de la MJ, on pouvait le prendre. Aujourd'hui, c'est impensable, déjà. On s'est refermé. Hein, on voit un peu comment les MJC ici, même, je pense que ça a dû évoluer, et pas forcément dans le bon sens, rien que ça, si tu veux, en termes d'accessibilité. Hein, je dois être adhérent, je dois être fait. Il y a un ensemble de mécanismes administratifs et puis de sécurité aussi. On a bien vu aussi la maison de quartier de Morpa, aussi, qui a vécu aussi des choses aussi difficiles. Ben, aujourd'hui, c'est fermé. Enfin, voilà, c'est aussi fermé dans nos têtes et fermé aussi physique, si tu veux. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais bon, je ne veux pas dire qu'il faut abattre les murs, mais presque.
Okay.
Mais parce que le climat aussi a changé, on voit aussi, on se tire dessus à deux pas d'ici, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans.
Ouais, donc on a parlé de MJC, de SMAC, de dispositifs de quartier. J'aurais une question, juste Narges, si tu peux réintervenir là-dessus. On en parlait lors d'une autre occasion, c'est-à-dire les dispositifs ou les volontés d'amélioration dans la reconnaissance de la créativité des quartiers populaires de la part des majors avec lesquels tu travailles. Je pense aux catégorisations, on va dire ethno-raciales, à la notion de musique urbaine. J'ai trouvé ça super intéressant que tu m'as raconté. Ouais. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais tu m'avais parlé de sortir les artistes, des top artistes africains de la catégorisation musique urbaine. Est-ce que
ça a été un vaste sujet qui a aussi, je dirais, secoué de façon mondiale les industries culturelles, dans le sens où il y a eu le tragique accident avec George Floyd aux États-Unis. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de top exécutives aux États-Unis qui ont pris la parole pour parler du mot « urban », de comment il était utilisé, bien qu'il ait été au départ poussé par des Afro-Américains. Mais en tout cas, il y avait toute une question autour de ce que le urban représentait, avec des grandes interventions, notamment Tyler the Creator aussi qui avait pris la parole, etc. Donc il y avait tout un discours autour de ce mot-là outre-Atlantique. Et en fait, forcément, ça a une résonance en France. Et moi, c'est vrai qu'à mon échelle, quand je suis arrivée chez Deezer, on utilisait la catégorie pop urbaine. Qui est par ailleurs encore un peu utilisé dans les médias, je dirais mainstream, et c'était une façon finalement de, on va dire très grossièrement, de mettre toutes les personnes racisées qui font de la pop ou les artistes plutôt issus du rap qui font de la pop. Donc en fait, une ghettoisation de beaucoup de profils. Et puis c'était pas très juste dans le sens où on se retrouvait avec des top artistes, mais pas que par ailleurs, qui pouvaient faire des musiques caribéennes, du rap, du R&B, mais qu'on voulait juste pas utiliser certains mots. Et donc il y a toute une question de rapport de pouvoir entre les populations, parce qu'il y a vraiment une question de milieu, de quel milieu vous venez, la puissance dominante qui utilise certaines appellations comme pop urbaine, de façon à annuler presque la créativité, la puissance des personnes minorisées, pour le dire d'une façon plus générale, quoi. Donc voilà, il y avait ce mot, je vais être très claire, moi, qui m'emmerdait. Donc je suis arrivée en disant, c'est pas possible, on peut plus utiliser ça. Et ça tombait dans un moment qui permettait d'eux. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant et que je parle beaucoup du fait de politiser ce que je fais et d'être très militant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé de façon à essayer d'être au plus juste de ce qui se passe et de la représentation des musiques et de la matière sur laquelle je travaille. Donc du coup, on a abattu ce mot, j'étais très contente, mais il a fallu faire tout un travail d'éducation auprès des majors, des partenaires avec lesquels on travaille, parce qu'en vrai, au début, quand vous envoyez un mail à Universal et que vous leur dites, en fait, vous n'utilisez plus pop urbaine, vous recevez encore des mails avec écrit pop urbaine, donc il y a tout un travail de non, vous allez mettre les bons mots, et puis de réintroduire des tags en lien avec des genres, type R&B, type Zouk. Donc voilà, progressivement, j'y arrive. Il y a une
dimension technique aussi énorme.
Exact. Et puis après, c'est tout un travail aussi où nous, on émet des hypothèses, ce que je dis beaucoup, mais en vrai, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on va dire, aujourd'hui, on a telle esthétique musicale ou sous-genre qui est en train d'émerger. Parfois, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, mais juste qu'on a envie de visibiliser. Je pense notamment en ce moment à la question autour du chata et du bouillon, qui sont des musiques caribéennes. Et donc, toute la question, ça va être de comment nous, on va travailler autour de cette matière-là. Est-ce qu'on peut utiliser les mots? Dans quelles conditions? Si oui, comment on fait en sorte que ce soit considéré dans notre outil en termes de search, d'algo, etc. Bon, là, je rentre dans des trucs très techniques type Deezer, mais voilà, c'est tout un travail un peu presque scientifique avec de la data où on va devoir aussi analyser ce qui se passe sur les outils qu'on utilise, parce qu'on a des outils hyper importants type Chartmetrics qui donnent un peu toute la métrique du monde mondial. Mais bon, c'est vrai qu'ils doivent aussi se mettre au diapason dans le sens où il y a des choses qui sont inexistantes. Et puis nous, on travaille aussi sur la question de la découvrabilité. J'étends un peu, mais la découvrabilité, c'est hyper important, en fait, parce que ça va être toute la question relative à comment on va considérer les musiques de la francophonie, notamment en France. Qu'est-ce qu'on considère en premier lieu, il y a les choses très identifiées, type la Belgique, le Canada, enfin le Québec, mais il y a des choses sur lesquelles il y a moins d'évidence et sur lesquelles il faut aussi travailler à une approche qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce qui se passe sur les différents marchés. Et après, se pose toute la question de à quel point... les personnes qui vont faire ça sont en capacité de comprendre ces industries-là. Est-ce qu'elles sont vraiment... Parce qu'en fait, il y a toujours cette question de légitimité et aussi de... Comment dirais-je ? En fait, aujourd'hui, on est dans un système où la plupart des outils qui sont mis à disposition et la plupart des recherches autour de ça sont faites par des personnes qui ne sont pas forcément des personnes minorisées ou des milieux en, en... Donc, du coup, il y a toute la difficulté qui va se poser de comment ça va être traduit et comment ça va être travaillé. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas une personne minorisée, vous ne pouvez pas travailler sur cet objet-là, mais il y a quand même toute la question de comment on considère ça et comment on travaille sur le terrain avec. Et donc, c'est vrai qu'à mon niveau, mon travail aujourd'hui, ça va être de beaucoup être en lien avec tous ces territoires-là pour faire au mieux la retranscription et puis pour pouvoir après justement faire un peu pression auprès des majors, des différents acteurs pour que les mots soient utilisés comme il faut. Et même en interne, la question d'un tag, ça peut prendre, ça peut prendre beaucoup de temps. Type, est-ce qu'on utilise Afrobeats, pourquoi, etc. Donc c'est des choses qui sont très précises. Désolée si je parle de genres musicaux voilà, qui vous paraissent obscurs, mais c'est juste pour dire que il y a des trucs qui sont très institutionnalisés, type le rock et encore la pop. En France, en fait, on pourrait en parler parce que généralement, c'est plus synonyme de hit. Il n'y a pas d'esthétique. Mais du coup, toutes ces choses-là font qu'on passe notre temps à questionner, poser des hypothèses et que la question de minoriser, personnes précarisées, etc., elle ne peut pas être absente, en tout cas pour ma part, de ce que je fais. C'est vraiment central. Et donc aussi la question de représentation aussi.
Ok, Michel, tu as envie de...
encore un peu de temps.
Si, mais de toute façon, je surveille. Mais vas-y.
Ça nous des trucs. Merci à toi. Ça nous
la parole est
choses.
À toi. Hein.
Moi, j'aime bien raisonner en anecdote. Je me rappelle en 96, j'étais à New York et dans les rues de Brooklyn et dans un magasin de sneakers, il y avait l'album d'Outkast, Atliance, qui sortait. Album extraordinaire d'ailleurs. Organized Noise, ils sont à la prod.
Oui, d'accord.
Il m'a ravagé cet album, vraiment. Et donc, il y a le hit Elevator qui passe en fond sonore. Et j'entends des personnes chanter le hit, d'ailleurs, enfin, faire le refrain. Et je me retourne, et ce n'est pas des jeunes. C'était des mamies qui étaient en train de chanter Me and You. Tu l'as en tête ou pas? Bon, bref, je vous invite à aller voir Elevator, à aller entendre sur Deezer ou une autre plateforme. le morceau Elevator d'Outkast. Et là, je me dis, ah ouais, on a loupé quelque chose. Et donc, je discute avec ces dames-là, et elles me disent que le morceau, il tourne à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, elles n'ont pas peur de se dire, même s'il y a le petit sigle Parental Adversary Explicit Lyrics, de communiquer avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et qu'eux leur donnent l'accès à qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi. Alors moi, j'écoutais Otis Redding, j'écoutais Aretha Franklin, ok, très bien. Et en écoutant donc, la musique que leurs petits-enfants et leurs enfants écoutent, elles font le trait d'union. Elles font le lien. Et effectivement, Outkast, c'est les dignes descendants avec leur musique organique de la Motown, même s'ils sont d'Atlanta, et de ces musiques qui utilisent des instruments. Donc je pense qu'il faut raisonner dans un temps long, dans un premier temps. Si on veut rendre accès, permettre à des jeunes d'avoir accès à des conservatoires, de un jour jouer d'un instrument, de après diffuser leur musique, de co-construire ensemble, etc. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que, toujours par rapport aux jeunes, c'est que nous, dans les projets qu'on développe avec nos deux assos, Philocité et L'Entaille, Action culturelle et Action sociale, c'est qu'on a à cœur, mais vraiment cheville au cœur, de se dire, voilà, nous, on est membres du bureau et on est aussi les responsables des projets, mais plus on travaille avec les jeunes ou avec les personnes qui veulent donner à voir sur des projets, sur des actions, sur des dispositifs, et plus on se met en retrait. Je crois que l'autonomisation des publics, pour moi, c'est l'horizon d'atteinte. En étant vraiment concret, là, on a monté un projet. Je fais un coucou à Anne Herzog qui est dans la salle. Moi, ma pièce, je me suis dit à un moment donné, elle m'appartient vraiment plus et c'est pas qu'une formule. Je me suis dit, ma pièce de théâtre, très bien. Comment je peux la transformer? C'est tombé au moment du Covid. Donc, plus personne sur les scènes. La France est mise à l'arrêt. Ben, avec mon équipe, on s'est retrouvés. On s'est dit, OK, cette pièce-là qui, pendant un moment, ne va plus se jouer. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle rebondisse auprès du public que tu as eu dans la salle lorsqu'ils sont venus te voir? Et donc, on crée un projet qui s'appelle Les Passeurs, où les jeunes de plusieurs villes différentes, alors qu'on est à l'heure des guerres de quartier, peuvent travailler ensemble, interroger leur famille sur les chemins de migration, recueillir la matière sur ces chemins de migration, s'interroger sur leur existence et leur appartenance à un quartier, et pour ensuite donner une forme artistique à ce qu'ils ont envie de faire. Et ce projet qui s'appelle Les Passeurs, être d'ici et d'ailleurs, voit le jour il y a 2 ans. Et petit à petit, on pousse les jeunes à s'autonomiser et à être forts sur toutes les lignes. La partie où ils recueillent des propos, la partie où ils écrivent, la partie où ils vont après donner à voir leur documentaire, parce qu'un documentaire vidéo d'une heure est sorti, donc on est sur la lecture d'images, on est sur le propos, écrire un film et un documentaire, c'est pas rien, donc on fait venir des personnes qui ont une expertise dans ce domaine, mais les jeunes sont vraiment partie prenante de ce qu'ils veulent dire et de comment ils veulent le dire, etc., etc. Et même la communication. Là, prochainement, on doit atterrir à l'Assemblée nationale. Vous imaginez même pas les tractations qu'il y a eu dans l'équipe, entre ceux qui voulaient pas y aller, ceux qui voulaient y aller parce qu'ils estimaient que c'était un peu pour eux, éclater le plafond de verre et montrer leur travail de quoi ça ressemble d'être issu des quartiers populaires et comme je vous disais, d'exister avec ses origines et de s'inscrire dans le grand roman français. Et ça, voilà, dans chacun des compartiments de leur vie là, et de leurs aspirations, on leur dit, voilà, autonomisez-vous, travaillez, parce que le facteur travail est quand même très présent, devenez indépendant, et nous, on accompagne tout ça. Donc, on élargit le panel dans les actions, et en même temps, nous, on prend du recul pour que eux fassent le travail, pour que eux mènent les actions. Voilà. C'est ce que je voulais juste préciser.
Merci, merci beaucoup, Michel, pour ce nouveau témoignage. Est-ce que, on arrive vers la fin de la table ronde, est-ce qu'il y a des réactions dans le public ou des questions qui s'adressent à nos 4 intervenants ? Je vous laisse réfléchir.
Personne, parce que sinon, moi, j'en ai une, mais c'est mieux si c'est... Nous, on a toujours des questions. Merci beaucoup pour les interventions. C'est une question, c'est plus une interrogation qui se pose à celui ou celle qui aura envie de répondre. Mais quand je vous entends, je trouve qu'il y a vraiment ça m'est venu comme ça en vous écoutant. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Il y a ce terme de pratique culturelle, qui est omniprésent dans les discussions qu'on a là, y compris dans les discussions institutionnelles, on va dire. Avec un langage sociologique, on va dire, dans le discours dominant, on parle beaucoup de pratique culturelle. Et en même temps, quand on vous entend, on a vraiment l'impression qu'en fait, la question de la pratique, très souvent, c'est... Enfin, la pratique, en réel, quoi. C'est ce qui est mis à l'écart, en fait, de ce qui est demandé, du point de vue institutionnel ou même industriel. C'est la phrase que vous sortez sur les clichés. Elle est super intéressante, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réalité est désignée comme cliché par des gens qui, par ailleurs, ont énormément de clichés sur les quartiers populaires et qui produisent en permanence des clichés qui sont souvent des modes de stigmatisation, mais qui sont des clichés. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment ça se fait que ce qu'est le réel, ce qu'est la pratique, est finalement tellement peu considéré que quand on le fait connaître, c'est considéré comme un cliché.
Ah ouais, c'est vaste sujet là.
Moi, je dis aux jeunes, ça va peut-être pas répondre, parce que ce serait vraiment long. Moi, je dis aux jeunes, lorsqu'on monte des projets ou lorsqu'on présente des actions, qu'on les construit ensemble autour d'une table, etc., ou qu'on a affaire à un public, qu'on a affaire à un programmateur ou à quelqu'un qui... détient un lieu et dont on n'est pas spécialement spécialiste de ce lieu, je dis aux jeunes, vous avez le droit de vous tromper. Trompez-vous parce que ce qui est intéressant après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette erreur-là ? Comment est-ce qu'on va la gommer pour la prochaine fois ? Les jeunes sont experts de leur milieu, de leur musique qu'ils font dans leur chambre, ils sont experts de ce qu'ils développent et de ce qu'ils proposent, qu'ils donnent à voir. Ils sont experts de ça. Ils ne rentrent peut-être pas dans les cases dans lesquelles on voudrait les faire rentrer, mais ils sont experts de ça. Moi, je leur dis d'être localement fort et d'être dans leur ligne fort. Et que si ensuite, en se présentant devant quelqu'un, ils sont dans le cliché, tant pis, qu'ils défendent leur cliché. Moi, j'ai défendu mon cliché. Et j'ai pas envie de dire, enfin, je dirais peut-être qu'aujourd'hui, le présent me donne raison. Les gens voient autre chose que des clichés quand ils voient ma pièce désormais. Parce que c'est pas le propos d'être dans le cliché. En ce qui concerne mon travail, en tout cas. Donc, dans le droit à l'erreur aussi, et je crois que ça, c'est très important, ça fait peut-être pas partie de la démarche universitaire. Et là, c'est l'enseignant d'école l'enseignant d'élémentaire qui a devant vous. L'erreur, elle est formative. Elle est formative. Et même si parfois, effectivement, elle débouche sur un cliché, ben, c'est pas bien grave. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas en faire qui va permettre de passer des étapes ensuite et vraiment devenir encore plus expert de ce que tu proposes. Alors, je répète, je sais pas si ça répond, mais ce discours-là, moi, je le tiens. Quand je dis je parle des collègues avec qui je travaille. Hein. On le tient très souvent et on défend cette ligne-là.
Moi, je dirais que la difficulté, en fait, c'est qu'on va tous et toutes être biaisés à certains endroits, ce qui fait que parfois, ce qui peut paraître, comment dirais-je, être la réalité pour toi est finalement cliché pour d'autres. Et on va avoir des appréciations qui vont être toutes relatives en fonction de notre environnement social, économique. Et de fait, notre regard, par exemple, sur... le rap, pour parler que de cette musique-là, d'ailleurs, quand je dis ailleurs, hors de Paris, généralement, pour les gens qui travaillent à Paris, il est forcément biaisé. On va avoir beaucoup de clichés sur le rap de Marseille, par exemple, ou sur le rap de Roubaix, ou sur le rap de Bruxelles, etc. On a l'impression à ce moment-là d'avoir une certaine vérité qui l'est pas réellement. Et pour, je dirais, avoir une précision et une justesse, on a besoin d'avoir une pluralité des expressions et une pluralité des acteurs et des actrices. C'est ce qui fait qu'on devient plus juste dans nos représentations et nos réflexions. La question autour d'un concert type Joule au Stade de France, ce que ça peut ramener en termes de résonance et les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de son profil, c'est pas les discussions qu'il y avait il y a encore 5 ans où on parlait constamment de juste c'est le gars qui arrive en claquette chaussette dans le game, ce qui est juste un, enfin je sais pas comment dire, c'est un vêtement. Il n'y a pas non plus à tergiverser sur la façon dont les gens sont habillés, et c'est des questions qui se sont posées et qui se posent encore aujourd'hui autour d'un profil comme Aya Nakamura dans un autre registre, et on pourrait faire une énumération comme celle-ci assez longue. Donc je dirais que au mieux on sera représenté à tous les niveaux, et au mieux on sera en capacité de réfléchir à ces sujets, et ça même dans le domaine universitaire avec toutes les actions qui sont menées ici et dans d'autres endroits en France où moi, pour ma part, ça fait 20 ans que je travaille dans le rap et ça fait vraiment 5-6 ans que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs, de chercheuses qui travaillent autour de ce corps. Ça fait plus longtemps, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment la sensation que depuis une dizaine d'années, il y a encore plus de ponts qui se font et de choses qui sont créées entre le milieu de l'éducation et aussi les acteurs et actrices de ce mouvement. Enfin, moi, pour donner un exemple qui est très personnel, le rap m'a permis d'aller à Sciences Po, j'y serais pas allée par l'école, par exemple. Donc c'est là où on se dit que justement tout ça, c'est des façons de combattre ces clichés, ces assignations, et que de toutes les façons, c'est des réflexions qui sont en mouvement. Donc ce que l'on pense être vrai aujourd'hui ne le sera plus nécessairement demain. Donc il y a aussi cette capacité à avoir la résilience et la flexibilité de faire avancer ces hypothèses et ces réflexions.
Moi, si je peux ajouter un truc, j'ai encore le temps. Ça me fait penser à une mission que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec Biopic. On a été contacté par une association qui s'appelle Liberté Couleur. Et on a été sollicité pour créer une playlist rap pour faire un blind test pour des professionnels qui accueillent des jeunes, donc entre 12 et 18 ans. Pour confronter en fait les professionnels sur leurs clichés face au rap et face enfin la stigmatisation qu'ils ont par rapport au fait que les jeunes écoutent un certain style de musique, et en fait le retour de cette formation et de ce petit temps de blind test a été que même entre eux, les professionnels se rendaient compte que la posture était pas forcément adaptée. Et que forcément, les plus jeunes, les professionnels qui avaient entre 25 ans et 30 ans se mettaient plus à la place des jeunes que les plus de 25 ans. Et il y avait moins de jugement. Et c'était plus dans la discussion. Et oui, le fait de reconnaître entre pairs qu'il y a de la stigmatisation, il y a des clichés et qu'on n'est pas tous égaux sur des questions de réalité, en fait.
Il y avait quoi dans la playlist ? Vas-y, donne-en 3-4, là.
Il y avait quoi ? Il y avait Nino, il y avait Werenoir, il y avait des rappeurs rennais. Et en fait, des retours de la formation, c'était que les moins de 25 ans qui étaient présents sur la formation qui connaissaient.
Il n'y avait pas un Demain c'est loin d'Ayam, par exemple ?
Si, il y avait.
Tu vois, là, c'est l'ancien qui parle.
Si, il y avait, parce que je me suis dit que sinon, les autres, ils n'avaient pas leur chance dans le blind test.
Donc, pas du tout une pique.
Elle était charitable avec les OG.
Enfin, voilà.
Ok, merci. Écoutez, on va conclure cette table ronde. Ah, tu avais une question ?
Il y avait une main levée là-bas.
Oh, je prenais la parole vraiment pour vous remercier pour cette table ronde et ce mélange de générations, vraiment, en espérant que ces échanges se poursuivent. C'est vraiment très précieux. On va faire une pause de 10 minutes et puis on reprendra à 11h pour essayer de ne pas prendre de retard par rapport à notre programme. Voilà, merci vraiment beaucoup.
Okay, merci Emmanuel. Merci
à vous.
Merci beaucoup.